lundi 4 février à 18h au rond-point de Die, des Gilets jaunes, Assemblée Générale à 18h. Puis le lendemain, mardi 5 février, à l'appel de plein de syndicats, enseignants, CGT, FSU et aussi des Gilets jaunes du monde entier, appel à 14h au Champ de Mars à Valence pour une manifestation et le départ de la grève générale, reconductible avec une AG le soir à, vers 17h devant la préfecture de Valence pour la reconduite du mouvement. Et puis aussi un autre appel des Gilets jaunes qui a été décidé en assemblée départementale régionale. Vous pourrez apprendre ce que c'est en passant à un rond-point.
Et encore des infos. Lundi 4 février, entre 12h et 14h, un camarade viendra au rond-point de Die pour nous entretenir du projet en cours à l'Intermarché de Die, à savoir l'extension prévue du supermarché et la création d'un drive. Un nouveau coup dur pour le commerce du centre-ville, bien mal défendu par les autorités municipales actuelles et précédentes. Ce camarade a en sa possession le dossier administratif qui encadre ce projet pour nous parler de cette problématique connexe au mouvement et aux revendications des Gilets jaunes. Venez nombreux, nombreuses. Quant à l'AG du rond-point, elle est donc reportée au lundi 14 février à 18h. Les comptes rendus et suite de l'Assemblée des Assemblées de Commercy du week-end dernier et de l'AG de la Drôme du vendredi 1er février à la commune de Saint-Uze. La réunion Gilets jaunes à l'espace social et culturel du Diwa Place de l'Évêché aura lieu le mardi 5 de 9h à 11h. L'organisation de notre débat local progresse. Venez participer pour qu'il puisse être lancé dans les meilleures conditions. Le 16 février, le tract d'invitation sera validé et la promo de l'événement sera débattue. À Valence, le samedi 2 février, manif plutôt tranquille et bonne humeur de se retrouver à quelques milliers à amener par plusieurs marches, malgré l'important déploiement de forces policiers pour garder l'autoroute ou quadriller la ville, que la joie de circuler libre ensemble est politique. Une vingtaine d'arrestations pour l'exemple et des comparutions immédiates dès lundi. Et encore des procès prochainement suite au 8 décembre. Restons vigilants, vigilantes. Violences policières, menaces judiciaires, soutien juridique. Contactez le comité de soutien et venez nous en informer à la radio. La Borie de Falguière, un message de la Borie commune dans le Gard, village de Jean du Gard. Un site de 22 hectares composé de forêts, essentiellement de châtaigniers, de prairies où passe une large rivière, le Gardon, traversée aussi par quelques sources et habitée par de nombreuses personnes, bâti ancien et habitat léger. Ce lieu a été le théâtre d'une lutte acharnée et victorieuse dans les années 1980-1990 contre la construction d'un barrage hydraulique qui aurait inondé toute la vallée. Depuis cette époque, différentes personnes s'y sont installées, y vivent encore aujourd'hui, ont entretenu le bâti et les terres et se sont organisées collectivement pour y faire perdurer un état d'esprit de résistance aux projets industriels et à la marchandisation du vivant. Certaines habitantes y ont, ou y ont eu une activité officielle, d'autres s'organisent en autogestion, dans l'ensemble en se mettant d'accord sur les espaces à partager. En 2008, le site a été racheté par la commune de Saint-Jean-du-Gard au Conseil Général, qui avait porté le projet de barrage et exproprié certaines habitantes au début des années 80. Et en 2017, une procédure judiciaire a été lancée pour expulser les habitants et habitantes. Depuis près de 15 ans, aucun projet n'a été mis en avant par la mairie, leur seul objectif étant aujourd'hui, à notre connaissance, de remettre la main sur ces terres. Suite aux péripéties judiciaires de l'été, quelques mois furent grappillés, mais le rendu du délibéré est prévu le 7 février. Alors pour l'occasion, pour recevoir le rendu du procès, être ensemble, fêter la vie et se préparer aux temps qui viennent, Bienvenue à la Borie, notamment pour le mercredi 6 février au soir. Pour être ensemble la veille du rendu, on s'organise un grand banquet vegan au coin du poêle, suivi d'une nuit de projection et discussion. Et pas loin, à la Lézarde, local autogéré aux 66 grands rues Saint-Jean-du-Gard, mardi 5 février à midi, repas mensuel de la Lézarde, et aussi sur les ronds-points d'Alès et de Saint-Hippolyte-du-Fort, avec les gilets jaunes. Pour venir à la Borie, à Jean-du-Gard, suivre la direction Vallée Française. À un moment, dans les tournicotis, un panneau La Borie sur la droite. Vous pouvez, pour celles et ceux qui viennent en bagnole et autres camtars, vous garer sur le parking en haut ou devant le portail à l'entrée du site. Sinon, depuis Saint-Jean-du-Gard, comptez une petite heure à pied, le stop fonctionne plutôt bien. Et pour rester, la Borie est commune et le restera. Plusieurs espaces peuvent être occupés, notamment un sleeping non mixte. Des discussions sans téléphone se feront à ces moments pour organiser la suite ensemble. Vive la Borie commune et vive les communes! Dans les Hautes-Alpes, plusieurs villes sont en mouvement. Écoutez les révoltes sur le rond-point de Sisteron en écoutant Heureuse Révolte de dimanche sur rdwa.fr. Ou encore des soirées de soutien aux exilés, ou encore plusieurs ralentissements expérimentaux des flux de marchandises par des blocages d'autoroute A51 ont eu lieu la semaine dernière. Ville de Gap, voici un son de 5 minutes de Théo Fortunato. Depuis le 1er janvier, les nouvelles personnes souhaitant demander l'asile dans les Hautes-Alpes n'ont plus le droit d'y être domiciliées. La préfecture leur impose une domiciliation à Marseille, où elles doivent régulièrement se rendre pour leurs différents rendez-vous administratifs, formation obligatoire, accès à l'aide légale, préfecture, demande d'asile et réception des courriers. Pour protester contre ce système coûteux et absurde qui n'a d'autre but que de décourager les demandeurs et demandeuses d'asile, une vingtaine de personnes ont occupé la préfecture et demandé à rencontrer la préfète. On écoute.
On est lundi 21 janvier 2019. On est une vingtaine à être allés à la préfecture des Hautes-Alpes ce matin à 10h30. Pour parler des problèmes de domiciliation des demandeurs d'asile dans les Hautes-Alpes, puisque depuis la nouvelle loi asile-immigration, ils ont régionalisé les demandes d'asile, donc toutes les personnes doivent aller à Marseille.
Salut.
On vous promet, si les arrêtés qui empêchent les gens de pouvoir se domicilier ici sont enlevés, autrement en attendant on part pas.
C'est l'obligation des demandeurs d'asile de se domicilier à Marseille, ce qui leur fait faire des allers-retours et qui leur ponctionne en transport la moitié de leur budget en fait.
Donc soit comme on disait tout à l'heure, ou bien on crée une PADA à Gap, ou bien on fait acheminer le courrier depuis Marseille jusqu'à Gap, ou bien on paye les voyages en train aller-retour que les personnes demandeurs d'asile, demandeuses d'asile vont devoir se tartiner tous les mois.
Vous sollicitez de l'avoir, je vous dis que c'est possible, simplement qu'il faut que vous soyez 3 ou 4 et qu'ensuite ça peut être fait très rapidement. À mon avis, objectivement, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc si vous êtes d'accord avec ça, vous nous dites, après on relaie l'information à la préfète et on peut organiser ça très rapidement. C'est-à-dire aujourd'hui, en début d'après-midi ou en fin de matinée. On ne peut pas faire mieux. Je me débrouille pour trouver une salle de réunion à l'étage juste en dessous et on organise ça. Ça vous va ?
On attend tous dans la salle de réunion. On attend que les quatre soient pris.
Donc, on a demandé un rendez-vous avec la préfète, notamment sur la base des référés liberté et des décisions du Conseil d'État de Nice et d'Amiens. Qui ont statué que c'est la préfecture qui devait payer les déplacements des demandeurs d'asile dans les préfectures régionales.
Vous avez demandé à voir la préfète.
Oui.
Madame la préfète, en général, elle reçoit, mais quand on lui demande une audience, pas quand on se présente comme ça.
C'est pas vrai.
Donc, elle est prête. Quand est-ce que vous avez demandé une audience ? Là, maintenant ? Vous êtes en train de la demander ? Oui, elle est prête à vous en accorder une cet après-midi. La condition, c'est que là, eh ben vous sortiez et vous voyez une délégation de 5 ou 6 personnes qui rentrent.
Vous n'avez pas tout compris, on n'est pas venu demander s'il vous plaît, en fait, on veut des garanties et on veut que ça change, en fait, parce que en fait, c'est pas normal. On veut que le courrier il revienne ici sur GAP et on veut des certifications aujourd'hui, maintenant, c'est pas demain. Et en fait, vous n'avez pas compris pourquoi on est venu ici, quoi.
Donc on a été reçu par la préfète qui va se renseigner parce qu'elle n'était pas au courant de cette décision du Conseil d'État, voir si ça a changé avec la nouvelle loi asile-immigration et qui s'engage à nous redire d'ici 15 jours si c'est possible de au moins faire transférer les courriers de la PADA à Marseille à la préfecture de Gap pour que les personnes n'aient plus besoin d'aller là-bas.
Monsieur Bigot, on va bientôt se revoir. C'est le Bigot, c'est le Bigot.
Et on termine avec un point sur la richesse des croisements, de toutes ces luttes, des avancées en cours contre toutes les frontières, avec la fin de Edera, série de 6 documentaires à décoloniser les imaginaires. Edera, avec un H comme la plante, c'est le lierre, projeté à Gap tout récemment justement. Voici les dernières minutes de épisode 6 donc, intitulé « On va bien finir par se croiser ». Parce que nous ne pouvons pas conclure que nous construisons la suite chaque jour, que nous voulons changer à peu près tout ce qui se trouve autour de nous, nous essayons d'exister et de faire exister ce que nous voulons aujourd'hui, parfois en se sentant seul, parfois en étant à contre-courant, mais surtout en essayant de nous inspirer, d'apprendre du passé et de développer des liens et de la solidarité malgré les conflits, les distances et le temps qui passe.
Bah, moi, je suis dans une situation relativement confortable aujourd'hui par rapport aux oppressions dont je pouvais être cible, on va dire. Mais je sais pas, le monde, c'est pas que ce milieu-là et qu'il y a plein de personnes qui sont grave en galère, beaucoup plus que ce que moi, je peux être ou que j'ai pu être, et qui sont notamment les personnes migrantes, les personnes en galère de papier, en galère de toit. Et que moi, j'ai eu envie de me bouger sur ces questions-là. Et que ça, c'est complexe aussi de faire ça en tant que féministe, parce que moi, je vois que ça m'a aidé, tout le travail que j'ai fait de confiance en moi dans le milieu féministe, de comment on s'organise aussi de façon horizontale en faisant attention à la parole de tout le monde. C'est des outils qui servent, et que voilà, je pense que je ferais pas les choses pareilles si j'avais pas ces outils là mais j'en vois aussi une limite, c'est que des fois j'ai l'impression de mettre un peu mon féminisme de côté en mettant d'autres luttes en priorité, alors que je vois comment il y aurait aussi un besoin, parce que les meufs qui sont dans cette situation de galère, elles ont ce truc de double oppression, quoi, d'avoir ces galères-là, et en plus des galères spécifiques, il y a des galères de meufs, de violences conjugales, de difficultés d'avoir une place à prendre, que leur parole elle soit prise en compte. Et ça, moi, j'ai vachement de mal à trouver des outils pour pouvoir, renforcer ces meufs-là, parce que le rapport, il est tellement inégalitaire entre elles et moi à d'autres points de vue, que je trouve que c'est pas simple. Et que voilà, moi je suis en manque d'outils là-dessus, et j'ai l'impression qu'on est pas mal à galérer, parce qu'en fait on est plein de féministes à avoir fait ce parcours-là. Et que voilà, on bloque un peu là-dessus, et je pense que c'est des choses qui vont se construire et qui vont se nourrir au travers des années. Mais un truc que je réfléchissais là quand on discutait et qui me semble intéressant, c'est que bah, moi je fais de la radio depuis un petit bout de temps. Avant j'étais dans une émission de radio féministe, maintenant je suis dans une émission de radio qui est justement plus sur les sujets des luttes contre les frontières, le racisme et tout ça. Et qu'en fait, à chaque fois que je parle de féminisme dans cette émission de radio, c'est pour dénoncer comment le féminisme, il peut être instrumentalisé à des fins racistes, islamophobes, voilà, ce qu'on voit énormément en France. Et que ces réflexions-là, je les ai aussi acquises au sein du milieu féminisme, et notamment grâce aux copines racisées, qui sont assez peu nombreuses, et je pense qui galèrent aussi pas mal dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est majoritairement blanc. Et, mais que voilà, nous ont quand même apporté plein de trucs que des fois on a pu avoir du mal à entendre ou qui n'ont pas été simples, parce que quand on se fait remettre à sa place de dominant, c'est pas toujours évident, mais qu'en fait ça nous a fait grave avancer. Et voilà, et je pense que Que dire de plus ? Il faut que je trouve une phrase de conclusion, ça vous allez couper. C'est comment le féminisme il peut continuer à évoluer avec ses apports de décoloniaux et tout ça, et aussi en remettant en question nos privilèges blancs pour les personnes blanches dans ce milieu, et comment dans les milieux de lutte contre le racisme, les frontières et tout ça, et ben on peut aussi réussir à infuser des trucs féministes qui jouent sur comment on s'organise, sur les places qu'ont les meufs là-dedans. Et voilà, comment on arrive à croiser tout ça et que tous les apports théoriques, pratiques qu'on a de toutes ces pistes-là, on peut réussir à les mettre ensemble et faire tout avancer en même temps, quoi.
Qui raconte ces histoires ? Une poignée d'initiés illuminés qui luttent en vain pour être entendus. Cette histoire, elle tombe dans l'oubli. On y sent un peu la tête de l'eau puis elle disparaît à nouveau. Et pourtant, c'est cette histoire, nos défaites, nos victoires, nos questionnements, nos tentatives de réponse qu'il faut transmettre. Ici, les héroïnes sont nous tous et nous œuvrons pour nous tous depuis toujours. Et nous ne sommes pas des êtres exceptionnels, purs et martyrs, nous sommes nous tous, chacun l'une à sa manière. L'unité ou la mésestime, trop d'exigence, trop d'admiration, la paresse ou vraiment pas le temps, la fatigue, le découragement, l'incompréhension, tant de facteurs qui empêchent la transmission. Et si on ne transmet pas, chaque génération devra tout redécouvrir, tout reconstruire, au lieu d'aller plus loin, tout de suite. Comment on construit un lien politique qui permet qu'on puisse accueillir les nouvelles histoires, en créer d'autres, se transformer perpétuellement, pour que le politique, la gestion du bien commun et de la qualité du lien entre tous, dépasse les égos, ne se cristallise pas sur des croyances, reconnaisse la complexité du réel, sache lâcher, remettre en question, évoluer, respecter l'individu, soutenir son émancipation et non pas encourager son conformisme en cherchant son adhésion par la manipulation et en stimulant son instinct grégaire, pour que le politique n'ait pas peur de l'inconnu, qu'il s'en nourrisse et accepte que la digestion est parfois très inconfortable. C'est un sort puissant, mais les petits sorts se le sont bien vivants.
Lundi 4 février à 18h au rond-point de 10 des Gilets jaunes, Assemblée Générale à 18h. Puis le lendemain, mardi 5 février, à l'appel de plein de syndicats, enseignants, CGT, FSU et aussi des Gilets jaunes du monde entier, appel à 14h au Champ de Mars à Valence pour une manifestation et le départ de la grève générale, reconductible avec une AG le soir à, vers 17h devant la préfecture de Valence pour la reconduite du mouvement. Et puis aussi un autre appel des Gilets jaunes qui a été décidé en assemblée départemental, régional, vous pouvez apprendre de ce que c'est en passant à un rond-point.